Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seydoudia. Bonjour, le président Idriss Déby Itno, qui dirige le Tchad d'une main de fer depuis 30 ans, a été réélu pour un sixième mandat avec 79,32% des suffrages exprimés selon des résultats provisoires annoncés lundi par la CENI, peu après que l'armée a affirmé avoir défait une rébellion lancée le jour du scrutin le 11 avril et tué plus de 300 ennemis. La confusion au sujet de cette situation sécuritaire a provoqué une panique générale lundi matin à N'Djamena, nous dit notre correspondant André Kotmajingar, que nous retrouverons en seconde partie de cette édition. Des djihadistes présumés du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont envahi une base militaire dans le nord-est du Nigeria avant d'être bombardés par l'armée de l'air qui a déclaré lundi avoir tué des commandants clés du groupe et regagné le contrôle de cette ville garnison de Dikwa. Paris et Kigali ont de concert envisagé lundi un nouveau chapitre dans leurs relations compliquées après la publication d'un rapport commandé par les autorités rwandaises sur le génocide de 1994. Nous y reviendrons dans quelques instants avec Claire Morin-Gibourg. Au moins 15 personnes, dont un policier, ont péri dans le dernier épisode en date de violences ethniques dans la région éthiopienne de l'Amara, des victimes qui viennent s'ajouter à des centaines d'autres. Yacouba Ouédraogo nous donnera les détails. Coronavirus, la République démocratique du Congo a lancé lundi sa campagne de vaccination lors d'une cérémonie officielle largement destinée à dissiper les doutes et méfiances autour du vaccin AstraZeneca Oxford. La fondation de Greta Thunberg va verser 100 000 euros au système COVAX pour lutter contre la tragédie qu'est l'inégalité vaccinale face à la pandémie, dénoncée par la jeune militante écologiste suédoise. L'exercice du journalisme, principal vaccin contre la désinformation en pleine pandémie, est totalement ou partiellement bloqué dans plus de 130 pays, alerte Reporters sans frontières, qui publie ce mardi l'édition 2021 de son classement mondial de la liberté de la presse. Le gouvernement pakistanais a annoncé mardi qu'il demanderait au Parlement de décider d'expulser ou non l'ambassadeur de France dans une tentative d'apaiser un parti islamiste radical qui a menacé de poursuivre une violente campagne pour obtenir son renvoi. Ce parti est à l'origine d'une campagne anti-France depuis que le président français Emmanuel Macron a défendu le droit à la caricature au nom de la liberté d'expression lors d'un hommage à un enseignant tué le 16 octobre après avoir montré des dessins satiriques à sa classe dans la foulée de la republication des représentations satiriques du prophète Mohammed par l'hebdomadaire Charlie Hebdo. Le jury au procès de Derek Chauvin, le policier blanc accusé du meurtre de l'Africain-américain George Floyd, a commencé lundi ses délibérations après une ultime journée au cours de laquelle accusation et défense ont exposé leurs arguments. Les États-Unis vont mener le combat contre le changement climatique, faute de quoi il ne restera plus grand-chose de notre planète, a déclaré lundi le secrétaire d'État américain Antony Blinken, en prévision d'un sommet virtuel sur le climat organisé jeudi et vendredi par le président Biden. En Allemagne, la direction de la CDU, parti chrétien-démocrate, a renouvelé son soutien lundi soir à Armin Laschet, président de la formation conservatrice, lors d'un vote interne pour tenter de dénouer la crise autour de la succession d'Angela Merkel, la chancelière allemande, qui ne se représente pas aux élections fédérales de septembre. Walter Mondale, l'ancien vice-président américain et candidat malheureux à la présidence en 1984, est mort à son domicile à Minneapolis à l'âge de 93 ans, a indiqué lundi une porte-parole de sa famille. La suite de nos informations, Paris et Kigali envisagent un nouveau chapitre dans leurs relations tumultueuses après publication d'un rapport commandé par le Rwanda qui conclut à une lourde responsabilité de la France dans le génocide de 1994, sans toutefois l'accuser de complicité. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Cette enquête de près de 600 pages, commandée en 2017 par le Rwanda au cabinet d'avocats américain Levy Firestone Muse, a conclu que l'État français porte une lourde responsabilité sans établir de preuves de complicité française dans les tueries en 1994. Je pense que la France n'a pas participé à la planification du génocide et que les Français n'ont pas participé aux exactions, a réagi Vincent Biruta, ministre rwandais des Affaires étrangères. Il assure que ce rapport va contribuer à la réconciliation entre la France et le Rwanda. Le rapport rejette aussi l'idée que Paris était aveugle face au génocide, comme l'a estimé récemment une commission d'historiens français dirigée par Vincent Duclerc, qui avait dénoncé des responsabilités lourdes et accablantes de la France dans la tragédie. De son côté, l'Élysée a annoncé la venue à Paris le 18 mai du président Paul Kagame et Emmanuel Macron a l'intention de se rendre au Rwanda cette année.
Éthiopie, au moins 15 personnes, dont un policier, ont péri dans des violences ethniques dans la région de l'Amara. Ces victimes viennent s'ajouter à des centaines d'autres. Précision de Yakuba Ouedraogo.
Wandwa Sen Zeleke, responsable médical dans Stoka, une des villes de la région Amara, a décrit, je cite, « des tueries, déplacements et incendies d'habitations à grande échelle ». Il a ajouté que toutes les victimes ont été touchées par balles. Plusieurs dizaines de maisons ont été réduites en cendres et des milliers d'habitants déplacés depuis mercredi dernier, la plupart ayant trouvé refuge dans des écoles et des stades. Le médiateur en chef de l'Éthiopie, Andale Aile, a indiqué début avril que plus de 300 personnes sont mortes et au moins 300 autres blessées pendant plusieurs jours de violence en mars dans la même région. L'armée éthiopienne a annoncé avoir déployé des troupes pour endiguer ces violences entre les ethnies Oromo et Amara, les deux plus nombreuses du pays. Des analystes craignent une aggravation des violences à l'approche des élections législatives et régionales prévues le 5 juin.
Une rencontre Biden-Poutine est toujours à l'étude selon les conseillers des présidents américains et russes. La Maison-Blanche a indiqué que les discussions en vue d'un tel sommet vont se poursuivre, Abdelrahman Dia.
Le conseiller de Joe Biden pour la sécurité nationale, Jake Sullivan, s'est entretenu hier par téléphone avec le secrétaire général du Conseil de sécurité russe, Nikolai Patrushev. Cette discussion fait suite à l'entretien que le président des États-Unis a eu avec son homologue russe la semaine dernière. Joe Biden a proposé que la rencontre se tienne dans un pays tiers. La Finlande et l'Autriche se sont notamment dites prêtes à accueillir un tel sommet dont l'objectif sera de réparer les relations entre les deux pays au plus bas depuis l'arrivée du démocrate à la Maison-Blanche. Moscou a manifesté son intérêt pour cette offre qui a toutefois été parasitée par des sanctions et contre-sanctions échangées par les deux pays la semaine dernière. La réponse positive des Russes intervient en pleine montée des tensions entre Moscou et l'Occident qui s'affrontent dans plusieurs dossiers internationaux, notamment à propos de l'Ukraine et dans l'affaire de l'opposant russe emprisonné Alexei Navalny. En attendant, Vladimir Poutine participera jeudi par visioconférence au sommet mondial virtuel organisé par Joe Biden sur le climat, selon un communiqué du Kremlin hier lundi.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
La dette intérieure du Cameroun se chiffrait à plus de 2600 milliards de francs CFA au 31 décembre 2020, une hausse de 350 milliards par rapport à 2019 selon la Caisse autonome d'amortissement. Cette augmentation se justifie non seulement par la dette vis-à-vis des fournisseurs de l'État, mais aussi par l'accélération des opérations de levée de fonds sur le marché des titres publics de la Banque des États de l'Afrique centrale. Au Gabon, l'activité sucrière a enregistré une baisse de production et une progression des importations de plus de 34% en 2020. La production de granulés de 50 kg a baissé de 14%, mais la transformation de sucre a augmenté de 10% par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires du secteur a toutefois progressé de 2,3% en raison de l'augmentation des prix du sucre, souligne le ministère de l'Économie. La Banque mondiale a approuvé un financement additionnel de 100 millions de dollars à la Côte d'Ivoire pour l'acquisition de nouveaux vaccins anti-Covid et pour intensifier la campagne de vaccination dans le cadre de l'initiative COVAX. Cet appui devrait permettre de vacciner plus de 10 millions de personnes, soit plus de 30% de la population.
Merci Nathalie. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. La valse des sélectionneurs se poursuit sur le continent après les éliminatoires de la CAN. La Fédération ougandaise de football dit avoir trouvé un accord avec le sélectionneur Johnny McKinstry pour rompre son contrat. Début mars, le technicien nord-irlandais, nommé en septembre 2019, avait été écarté et c'est son adjoint Moubirou Abdallah qui a dirigé l'équipe lors des matchs contre le Burkina Faso et le Malawi. À la tête des crânes, Johnny McKinstry comptabilise 12 victoires, 3 nuls et 3 défaites en 18 matchs. Prochain rendez-vous des crânes, juin 2021, dans les éliminatoires du Mondial 2022 où l'Ouganda partage le groupe E avec le Mali, le Kenya et le Rwanda. Comme il fallait s'y attendre, les réactions fusent en Europe après l'annonce de la création d'une Super League par 12 clubs d'élite. Le président de l'UEFA, Alexander Seferin, parle d'une proposition honteuse de quelques clubs guidés par l'avidité. Il compare cette compétition à un crachat au visage de tous les amoureux du football. Le gouvernement britannique compte faire tout son possible pour empêcher la création d'une Super League européenne de football, y compris en invoquant la législation sur la concurrence, a affirmé le ministre des Sports, Oliver Dowden. C'est un acte criminel contre les fans, une honte, ce sont des escrocs, a déclaré Gary Neville, l'ancienne idole de Manchester United, l'un des clubs fondateurs de cette Super League. La même rage anime Rudy Voleur, vainqueur de la Ligue des Champions avec Marseille en 1993. Un crime contre le football s'est-il emporté? Les enfants rêvent de gagner le Mondial ou la Ligue des Champions, pas n'importe quelle Super League, renchérit Mesut Ozil, lui aussi champion du monde 2014 avec la Mannschaft. D'après Ander Herrera, joueur du Paris Saint-Germain, les riches ont volé ce que les gens ont créé et qui n'est rien d'autre que le plus beau sport de la planète. Toujours en Europe, c'est fini entre Tottenham et José Mourinho. Le club anglais a annoncé hier que son entraîneur portugais et tout son staff ont été relevés de leurs fonctions 17 mois après leur arrivée chez les Spurs pour remplacer Mauricio Pochettino, leader de Premier League à la mi-décembre. Tottenham est actuellement 7e à 5 points des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Après 22 journées, les Londoniens doivent jouer ce mercredi un match en retard de la 29e journée contre Southampton. Ils doivent ensuite disputer dimanche la finale de la Coupe de la Ligue contre Manchester City à Wembley. Mourinho sera remplacé pour le moment par Ryan Mason, ancien joueur de Tottenham et qui était l'entraîneur des moins de 19 ans.
Merci Yacouba.
À votre avis, votre émission interactive à 18h05, temps universel sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg avec vous. Le projet d'une Super League lancée par 12 clubs européens pour concurrencer la Ligue des Champions fait des vagues. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous plutôt pour ou franchement contre? Et pourquoi? Venez en discuter en direct ce soir dans À votre avis à 18h temps universel sur l'antenne de VOA Afrique en appelant le 001 202 205 26 33. Vous pouvez également nous laisser vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique. À ce soir, 18h05 temps universel.
Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, panique générale lundi matin à N'Djamena. Le gouvernement a déployé des chars combat autour de la présidence et des coins stratégiques, ce qui a créé une psychose au sein de la population. La situation dans le nord-est du pays est toujours confuse. C'est dans ces conditions que la Commission électorale nationale indépendante annonce les résultats provisoires de la présidentielle du 11 avril. Sans aucune surprise, Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, remporte au premier tour les élections avec 79,32% des suffrages exprimés. André Kodmajingar fait le point de N'Djamena.
C'est comme pour un parcours du combattant ce lundi matin à N'Djamena. Les blindés et chars combat bloquent certaines artères de la ville. La population vit dans la psychose depuis quelques jours à cause des bruits de bottes et de canons signalés depuis quelques jours dans le nord-est du pays. Très vite, la panique est renforcée par les rumeurs selon lesquelles une colonne de rebelles serait entrée en ville, ce qui a entraîné un sauve-qui-peut. Les fonctionnaires vident les lieux de travail, les chefs d'établissement ferment les écoles et renvoient les élèves. Les marchés sont vidés et les boutiques sont vite fermées. Tout le monde se précipite pour rentrer à la maison et la vie reprendra son cours normal en début d'après-midi. Réaction de quelques citoyens.
On ne sait jamais, mais ils sont à la porte de N'Djamena. Donc, il y a des bandades partout. Moi aussi, je suis en train de rentrer à la maison comme ça.
L'arrivée des rebelles, cela est prévisible parce que nous avons constaté qu'il y a un manque de dialogue entre les Tchadiens. Il n'y a pas d'autre issue que de prendre les armes.
Pour le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Chérif Mahamat Zen, c'est un dispositif sécuritaire dissuasif qui a été mis en place par endroit de la capitale. Il appelle la population au calme.
Je tiens à rassurer l'ensemble de la population italienne qu'il n'y a aucune menace particulière ni sur la capitale ni sur l'ensemble du pays. La colonne venue de la Libye a été complètement décimée et je pense que la situation est totalement sous contrôle et que la population vaque convenablement à ses occupations.
Le coordonnateur national du mouvement citoyen l'OTAN, Kemba Dida Alain, dénonce le manque de communication sur cette question de la part du gouvernement.
La panique aujourd'hui dans la ville de N'Djamena fait suite effectivement à cette absence de communication et compte tenu de la situation confuse dans le pays, les gens se sont mis à courir dans tous les sens.
Une situation confuse de ni guerre ni paix qui a mené des partis politiques de l'opposition, des organisations de la société civile et des artistes à appeler dans une déclaration commune les belligérants à un cessez-le-feu et de privilégier le dialogue.
Comme en réponse à Idriss Déby, qui a maintes fois déclaré qu'il n'est pas arrivé au pouvoir par un billet d'avion ou de bus, plusieurs forces politico-militaires ont déclenché depuis le 11 avril 2021 des attaques massives sur des positions des forces armées tchadiennes.
Docteur Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, est l'un des signataires de ce document.
Aussi, invitons-nous toutes les forces militaires belligérantes à faire une déclaration solennelle de cesser le feu sur l'ensemble du territoire national afin de créer les conditions nécessaires pour la tenue de ce dialogue national inclusif qui est la revendication du peuple tchadien meurtri par plusieurs années de violence.
Les résultats provisoires annoncés par la CENI donnent Idriss Déby Itno gagnant au premier tour avec 79%, suivi de son dernier premier ministre Paimi Patake Albert qui recueille 10,32%. Le taux de participation selon la CENI est de 64,90%. André Kodumajingar, N'Djamena. Maintenant pour VOA Afrique.
Au Sénégal, les acteurs locaux du secteur de la pêche sont aux abois. Leur filière traverse une crise sans précédent, obligeant même le président Macky Sall à annoncer la tenue d'un conseil présidentiel de la pêche artisanale. L'objectif est de mettre en œuvre une stratégie de relance de ce secteur d'activité dont les problèmes dépassent la pêche artisanale. Notre correspondant à Dakar, c'est Dina Abagay.
Autrefois, nous étions fiers d'être des pêcheurs. Hélas, aujourd'hui, notre métier ne nous nourrit plus.
La pêche sénégalaise traverse depuis des années des eaux troubles. Une situation qui a poussé le chef de l'État Macky Sall à programmer pour le mois de mai un conseil présidentiel dédié à la pêche artisanale. Gourgui Ndiaye, marieur au quai de pêche de Yoff, énumère les maux dont souffre le secteur.
L'État est responsable de la situation de la pêche sénégalaise. Les autorités ont le devoir de surveiller la mer. La mer est polluée. On y verse des produits chimiques et cela tue les espèces. De plus, nos côtes sont surexploitées. Prenons l'exemple de la Mauritanie. Il y a des périodes où la pêche est suspendue sur l'ensemble du territoire. Les poissons ont le temps de se reproduire. Contrairement au Sénégal où la mer est exploitée toute l'année. C'est abusé et cela impacte négativement sur notre activité.
La signature de certains accords ou encore l'octroi des licences de pêche sont aussi des opérations dénoncées par les acteurs du secteur. Fatounia Diagne, membre du bureau du groupement des armateurs et industriels de la pêche au Sénégal, GEPES.
Depuis 2020, on a eu beaucoup de remous dans le secteur de la pêche, lié à l'octroi de licences de pêche, la signature des accords avec l'Union européenne. Et avec l'immigration clandestine qui est quand même fait en grande partie par les pêcheurs de la pêche issue de la pêche artisanale.
Malgré les remous et les eaux troubles que traverse la pêche sénégalaise, le ministre de la pêche Alioune Doye estime que des efforts sont en train d'être faits. Sur les ondes de la radio RFM, le ministre estime que le plus important est que tous les acteurs respectent et appliquent les règles édictées par le gouvernement.
Et la pêche reste quand même un secteur qui englobe énormément de Sénégalais. Il est vrai, maintenant, c'est un problème de formalisation de ces activités. De ce point de vue, avec toute cette politique que nous avons sur la chaîne de valeur, je pense qu'on va formaliser de plus en plus. Le président a annoncé la livraison d'un avion pour surveiller ses côtes. J'ai remis sur pied le corps des observateurs. Ils ont été formés. Aujourd'hui, il y en a 65. Donc voilà, ce sont ces actions qui vont permettre de mieux gérer d'abord nos mers et ensuite il faudrait que toutes les décisions prises pour préserver la ressource, qu'on puisse convaincre les acteurs que c'est de leur intérêt vital, en tout cas de respecter ces règles-là.
Les propos du ministre semblent rassurer la directrice de la société de pêche industrielle Sopacen, cette dernière qui espère que ce conseil présidentiel sera participatif et inclusif, se projette déjà vers l'avenir.
Nous espérons que ce sera un moment d'échange avec toutes les composantes du secteur de la pêche pour enfin essayer de trouver la bonne voie pour développer ce secteur qui est important pour le Sénégal et qui est pourvoyeur d'emplois. Les investisseurs n'ont pas un environnement stable s'il n'y a pas de transparence dans la gestion du secteur.
Hormis ce conseil présidentiel, le chef de l'État Macky Sall a souligné la nécessité du renforcement des actions préventives de sécurité en mer et l'impératif d'asseoir l'aquaculture comme sous-secteur prioritaire dans la promotion de l'emploi des jeunes. Des annonces qui rendent les attentes des acteurs encore plus grandes. Sayedina Abagué à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Cette sonnette d'alarme au Cameroun, les enfants camerounais sont de plus en plus exposés à diverses formes de dangers. Ce constat est de la Commission nationale de protection de l'enfance qui pointe du doigt des fléaux comme la drogue, la traite humaine, les abus sexuels ou encore les pratiques magico-religieuses. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jules Tap.
Un groupe d'élèves d'un établissement scolaire de Kribi, une cité balnéaire au sud du Cameroun, a récemment défrayé la chronique avec une affaire de porte-monnaie magique. Ces enfants, une fois interpellés, ont confié aux gendarmes qu'ils ont reçu 1 million de francs CFA de leur gourou chaque fois qu'ils parvenaient à introduire l'un de leurs camarades de classe dans le réseau du porte-monnaie magique. Cette affaire est loin d'être un cas isolé qui met en danger l'enfance au Cameroun.
On a plusieurs formes de traite, notamment l'exploitation sexuelle.
Lydie Essissima a participé à l'étude sur la situation de la traite des personnes et le trafic illicite des migrants au Cameroun. L'étude révèle que les enfants sont comptés parmi les victimes.
Quand vous êtes au niveau de plusieurs carrefours, vous voyez des petits enfants qui sont forcés de mendier. Ça fait partie des éléments de traite. Le Cameroun est un État qui a ratifié toutes les conventions internationales en matière de protection des droits humains, notamment la protection des femmes et des enfants.
D'autres fléaux, comme la consommation de drogue, impliquent des enfants scolarisés ou non. Le ministère de la Santé publique indique que 20% des consommateurs de drogue ont entre 17 et 20 ans. L'une d'elles, le Tramadol, est la plus répandue au Cameroun. Titus Ndikoum, coordinateur de Empower Cameroun, une association d'auto-support d'usagers de drogue.
On a le nord, l'extrême nord, on est en contact avec le Nigeria. Par là, ça entre. Et on sait même que dans le nord, la Damawa, la Garoua, tout ça sont des endroits où il y a aussi beaucoup d'usage de ce tramadol-là. Ça passe par nos frontières à cause de la corruption.
L'exposition croissante des enfants à diverses formes de danger a amené les pouvoirs publics à mettre sur pied depuis 2016 une plateforme nationale de protection de l'enfant. Jean-Pierre Edouard, directeur de la protection sociale de l'enfance au ministère des Affaires sociales.
Cette plateforme a été créée pour avoir la possibilité en temps réel de se pencher sur les problèmes qui concernent les enfants, y compris ceux qui sont dans des situations d'urgence.
D'autres experts préconisent dans la situation actuelle l'application du dispositif répressif en vigueur au Cameroun. Un avis que partage Diane Chomalonier, avocate des droits des femmes, enfants et personnes handicapées.
Voyez-vous ces parents là qui se donne la liberté de permettre que les enfants soient sur la voie publique en train de vendre, qui utilisent les enfants dans ce sens-là. Ce sont des infractions. C'est le ministère public qui, au premier chef, devrait se saisir de pareils cas. Et même les institutions censées protéger l'enfant, afin que ces personnes qui exposent les enfants à toute forme de danger soient sévèrement punies.
Le gouvernement, pour sa part, dit réfléchir sur l'adoption d'une stratégie nationale de prévention et de lutte contre les fléaux scolaires et extrascolaires au Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'annonce de la création d'une Super League divise depuis lundi matin l'Europe du football. Les grands clubs du continent, Real Madrid, Liverpool ou Manchester United en tête, ont annoncé tôt le matin la création d'une société privée baptisée justement Super League, concurrente directe de l'actuelle Ligue des Champions. Ce qui suscite le courroux de certains fans et des dirigeants. Les explications de Yacouba Ouedraogo.
12 clubs, l'AC Milan, Arsenal, l'Atlético Madrid, Chelsea, le FC Barcelone, l'Inter Milan, la Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, le Real Madrid et Tottenham sont à l'origine de la création de cette Super League, une sorte de Ligue des champions privée qui se jouerait en milieu de semaine. Problème, la Ligue des champions, compétition phare de l'UEFA, qui se joue aussi en milieu de semaine, se voit menacée, d'où le courroux du patron du foot européen, Alexander Seferin, qui parle d'une proposition honteuse de quelques clubs guidés par l'avidité, un avis partagé par certains supporters comme Zakaria, rencontré dans les rues de Paris.
Personnellement, ça tue le principe du football. C'est-à-dire qu'on aura plus de surprises comme l'Ajax ou même l'Atalanta qui sont passés en quart ou en demi-finale. Et voilà, ça base sur la richesse du club. Le championnat servira à rien.
C'est aussi là un point de désapprobation récurrent qui participera à cette compétition et sur la base de quels critères? Selon ses promoteurs, la Super League fonctionnerait sous la forme d'une saison régulière opposant 20 clubs, 15 membres de droit, les 12 clubs fondateurs et 3 supplémentaires restants à déterminer et 5 autres équipes choisies selon leur performance de la saison précédente. En France, le Paris Saint-Germain a été approché mais n'a pas donné suite. Côté allemand, le Bayern Munich et Dortmund se sont prononcés contre le projet. Emmanuel Madouda, parisien, pense que ces clubs pourraient regretter leur refus.
Je pense que c'est une bonne chose qu'on voit aussi d'autres mouvements se créer sportifs. Puis voilà, un Paris Saint-Germain et Bayern de Munich, ils ont tort de refuser tout de suite. Hein. C'est quand ça va prendre de l'ampleur et que tout le monde s'adhère à ça. Et ils seront mal vus, hein, des traîtres.
Ces clubs qui ne feront pas partie verront surtout de l'argent s'échapper sous leurs yeux. Selon les promoteurs, les clubs fondateurs recevront un versement en une fois de 3,5 milliards d'euros. La banque américaine JP Morgan confirme qu'elle va financer le projet. Ils disent aussi attendre des recettes supérieures à celles obtenues par l'UEFA pour l'ensemble de ces compétitions de clubs, Ligue des Champions, Ligue Europa et Supercoupe d'Europe qui ont généré 3,2 milliards d'euros de droits de télévision en 2018-2019. Justement, d'autres supporters pensent que seul le gain financier guide les initiateurs de cette Super League. Dans les rues de Rome, en Italie, Ivano est supporter de l'AS Rome.
C'est toujours une question financière, c'est une question de lobby et d'argent. Et il n'y a rien que vous puissiez faire à ce sujet, c'est juste du business.
L'UEFA prévient que tout club qui participerait à cette Super League serait exclu des compétitions nationales et internationales et que leurs joueurs ne pourraient plus jouer en équipe nationale. La FIFA, elle, s'est contentée de dire qu'elle ne peut que désapprouver une ligue européenne fermée et dissidente. En attendant, la compétition est censée commencer en août. Une première phase opposera deux groupes de 10 équipes en 18 journées. La seconde se fera sous la forme de play-off jusqu'en mai pour décerner le trophée.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sibulia et de Michel Joseph à la mise en monde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.